Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, préparation aux événements qui viennent. Vous savez, à chacun de ceux que Dieu appelle en ce moment à faire partie de son petit troupeau avant le retour de Christ, Dieu met à la disposition de chacun qui est appelé maintenant toutes les connaissances nécessaires et toute l'aide nécessaire par son Saint-Esprit pour arriver au grand but que Dieu a en tête pour chacun. Et dans ce sens-là, dans sa parole, il nous donne plusieurs exemples vécus par le peuple de Dieu au cours de l'histoire pour nous montrer des choses précises, pour nous montrer quel exemple éviter et quel exemple imiter pour réussir, pour atteindre le but qu'il a pour nous. Reportez-vous, s'il vous plaît, au premier livre de Corinthiens. Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Ici, l'apôtre Paul nous l'explique clairement, le principe que je viens de vous donner. 1 Corinthiens, chapitre 10, on va lire le verset 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Parce qu'on sait que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'était pas le Père qui n'est jamais venu sur la terre encore, c'était le Christ qui était le Dieu de l'Ancien Testament. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, « Or, et voilà le point, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Alors, comme je mentionnais, ce sont des exemples, des leçons pour nous, des mises en garde pour être prêts aux choses qui viennent, surtout à nous qui sommes rendus tout proches du retour de Christ. Remarquez bien ce qu'on vient de lire. C'est que les Israélites anciens, ils ont tous commencé ensemble. Ils ont tous été baptisés dans la mer. Bien sûr, c'est un baptême symbolique. Ils n'ont pas été pardonnés de leurs péchés, le Christ n'était pas mort encore. Mais ils ont tous symboliquement été baptisés en passant dans le fond de la mer. Et tous ont mangé le même aliment spirituel. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont reçu le même enseignement. Ils ont eu les mêmes informations, tout le monde, sans exception. Et Paul nous dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, c'est-à-dire qu'ils ont tous été abreuvés à la même source spirituelle puissante des eaux vives, à même Jésus-Christ, qui les a nourris, qui les a abreuvés. Mais ce qu'on sait par l'histoire, c'est que la plupart d'entre eux se sont détournés de Dieu, ont abandonné. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie, comme il mentionne, à cause du manque de fidélité à Dieu, à leur engagement, à cause de leur attachement humain au plaisir charnel contraire aux lois divines. Ils sont allés dans l'autre direction, ils ont retrouvé leur vieille façon de faire et ils se sont complus là-dedans. Alors, ils se sont détournés de Dieu. Alors, voyez-vous, ces exemples-là nous mettent en garde contre les mêmes risques, nous, aujourd'hui, pour qu'on atteigne le but. Regardez le verset 7 après. On va lire les versets 7 à 11. On nous met en garde ici. « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. » Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être idolâtres? Ils se sont considérés comme leur propre Dieu en cherchant d'abord leur plaisir contraire aux lois de Dieu. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, c'était pas simplement un repas ordinaire, c'était des orgies. C'est ce qui s'est passé, et on le voit tout de suite après. « Ne nous livrons pas à la débauche. » Et dans le texte original, ça dit « Ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle. » Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. » Ils ont eu des conséquences immédiates très fortes. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, disons que c'est encore plus vrai pour nous aujourd'hui, et les tentations sont là, et elles sont de plus en plus fortes. L'adversaire les rend disponibles partout, à la télévision, sur Internet, dans les journaux, dans la façon dont les gens vivent autour, et ce n'est pas sans être un risque pour nous, parce que c'est de ça qu'on doit s'extirper pour vivre selon Dieu. Alors, en lisant ces événements vécus par les Israélites, on peut facilement être porté à se dire, et moi ça m'est arrivé dans le passé, on peut facilement être porté à se dire, moi là, si j'avais été là avec les Israélites, j'aurais pas agi comme ils ont agi. Après les 10 miracles flamboyants qu'on voit dans la Bible, j'aurais pas agi de la même façon. Ça, c'est une réaction humaine. J'ai déjà été porté même à penser ça. Vous l'avez peut-être déjà fait. Mais c'est pas un raisonnement valable. Pas du tout. Eux, ils ont eu des miracles flamboyants. C'était évident devant eux. Et pas longtemps après, trois jours seulement après, être sortis de la Mer Rouge, ils ont commencé à critiquer, ils ont commencé à murmurer. Ça n'a pas pris de temps. Ils venaient de voir des choses éclatantes, impossibles, autrement que par des interventions miraculeuses d'un être tout-puissant, et tout de suite après, ils se sont détournés. Exode 15, ça vaut la peine. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, on va lire le verset 22. Exode 15, le verset 22 à 25. Première partie du verset 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après trois journées de marche, trois journées seulement, dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Petit problème. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Alors, voyez ce qu'ils ont fait déjà trois jours seulement après être sortis des eaux de la mer Rouge et d'avoir vu tous ces miracles. Ils n'ont pas attendu que Dieu intervienne. Ils n'ont pas compté sur Dieu, sur le Dieu Tout-Puissant qui s'était aussi clairement manifesté. Et ils ont recommencé pas longtemps après. Regardez dans Exode 16, peu de temps après, le verset 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, c'était peu de temps après, murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, nous, toute cette multitude. » Ben oui, déjà, ils critiquent, ils accusent Moïse et ils accusent Dieu, dans le fond, de les avoir amenés à un endroit où il y avait des problèmes énormes. Ils n'ont pas cherché l'aide de Dieu, ils n'ont pas attendu, exactement, ils n'ont pas compté sur Dieu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça par rapport à l'action de Dieu là-dedans? Et là, je vous donne un principe qui est très important. Je vais y revenir au cours du message, mais Dieu avait ses raisons de laisser les Israélites se retrouver dans des situations difficiles, dans des situations inquiétantes, incertaines, inconfortables. Dieu avait ses raisons de les laisser passer par là. Et il a fait en sorte qu'il passe par là. Et c'est exactement la même chose pour nous. Exactement la même chose pour nous. Allez au livre de Deutéronome, s'il vous plaît, un peu plus loin. Le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, nous allons lire le verset 1 et le début du verset 2. Vous observerez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Alors, Dieu leur avait donné des ordres de marche en disant, pour être heureux, voici la recette. Je vous donne mes commandements pour que vous développiez relation avec moi et que vos relations avec les autres êtres humains portent de bons fruits. Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire durant ces 40 années dans le désert. Alors, voyez-vous, Dieu a permis qu'il fasse ces 40 années dans le désert pour un but précis. Et il a fait en sorte que ce soit possible. Pourquoi? Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que les Israélites ne sont pas allés directement de l'Égypte à la terre promise? Pourquoi est-ce que les Israélites ne sont pas allés directement de l'Égypte à la terre promise? Ça aurait été simple. Je vous pose une question encore qui vous concerne, Émi, et qui me concerne aussi, ceux qui sont baptisés. Pourquoi est-ce que nous n'entrons pas directement dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, une fois qu'on s'est vraiment repenti et qu'on a été baptisé et qu'on a reçu l'Esprit de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'entre pas immédiatement dans son royaume, dans sa famille? Vous allez voir, c'est pour la même raison exactement. Au contraire, notre vie physique continue. Bien sûr, il y a des choses intéressantes, puis il y a des choses encourageantes, et quand on travaille à obéir à Dieu, Dieu nous bénit, et Dieu répond à nos besoins. Mais, en même temps, nous rencontrons des difficultés. Nous rencontrons des déceptions, des pertes, des creux de vagues, des périodes de doute, des défis de toutes sortes. Et Dieu permet qu'il en soit ainsi. Parce qu'à travers ça, il nous apprend une chose de base très importante. Pourquoi les Israélites ont vécu ces 40 années dans le désert? Pourquoi, en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne, nous qui sommes appelés aujourd'hui au temps de la fin, pourquoi est-ce que nous devons vivre toutes les années qu'on a à vivre avant d'être transformés, avant le retour de Christ et tout ça, dans ce désert spirituel où nous vivons? On peut faire une comparaison. Nous, on vit dans un désert spirituel qui devient de plus en plus affreux et difficile à supporter. On a hâte que ça soit terminé. Et on demande à Dieu, avec de plus en plus d'insistance, que son règne vienne, pas juste pour nous, mais pour l'ensemble de l'humanité. Alors, Dieu permet qu'on traverse ce désert spirituel et qu'on rencontre toutes sortes de situations dans un monde où on se sent de moins en moins chez nous. Et quand les gens me disent ça dans l'Église, je trouve ça bien, parce qu'il ne faut pas se sentir chez nous dans ce monde-là. Ce n'est plus notre monde. Dieu nous a montré une autre façon de vivre en préparation d'un autre monde, duquel on fera partie si on reste attaché à Dieu. Maintenant, pourquoi ces 40 ans dans le désert et pourquoi nous continuons dans le désert spirituel? Et regardez le reste du verset 2. Afin de t'humilier, Deutéronome 8, verset 2, la deuxième moitié, il dit, il a permis ces choses-là, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Voyez-vous, c'est là qu'on est mis au test, exactement. Pour les humilier et pour nous humilier, c'est-à-dire pour nous apprendre des choses, pour nous montrer que seul on peut pas, pour nous apprendre à compter sur lui, pour nous humilier et nous tester, nous éprouver, pour voir si on va tenir à le servir, quelles que soient les circonstances. Verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voyez-vous l'essentiel qu'ils devaient apprendre, eux, et que nous devons apprendre à notre époque, dans la situation où on se trouve. Alors, comment ça se passe à ce moment-là? C'est que Dieu permet qu'on soit placé dans des situations où on est totalement incapable de pourvoir nous-mêmes à nos besoins de base les plus simples parfois. C'est ce qu'eux ont vécu. Ils ont été placés devant le manque d'eau, devant le manque de nourriture, des besoins de base, et ils ont dû apprendre à compter sur Dieu. Il les a placés dans des situations où ils étaient totalement incapables de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins et de régler les problèmes qu'ils rencontraient. Ils étaient incapables par eux-mêmes. Il fallait qu'ils apprennent ça. Et nous aussi, on doit apprendre ça. Parce qu'à partir du moment où on commence à vraiment voir qu'on ne peut pas régler les choses, qu'on ne peut pas vaincre seul, c'est là qu'on développe de compter sur Dieu totalement. Quelle est la grande réalité derrière tout ce que je vous explique? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre et nous rappeler? C'est que Dieu pourvoit tout. Dieu pourvoit tout. Tout nous vient de lui. Tout nous est donné par lui, y compris la victoire sur nos faiblesses, sur nos fautes. Bien sûr, il faut faire notre part. Si on ne fait pas notre part, même si on lui demande, mais si on ne fait pas notre part, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est clair. Ça, il faut le comprendre aussi. Mais la grande réalité, c'est que Dieu pourvoit tout, et tout nous vient de lui, tout nous est donné par lui. Même la victoire, le courage, la foi dont on a besoin. Il faut que ça nous soit donné, absolument. Écoutez, vous ne vous êtes pas donné la vie que vous avez. C'est très simple comme raisonnement, mais c'est puissant en même temps. Vous n'avez pas créé l'air que vous respirez. Vous n'avez pas créé non plus la nourriture que vous avez plaisir à manger et dont vous avez absolument besoin pour continuer à vivre. Vous ne vous êtes pas donné des yeux ou des oreilles. Vous ne vous êtes pas donné un cerveau différent du cerveau des animaux, un cerveau qui contient un élément spirituel qui permet de réfléchir, analyser, penser, choisir, faire des projets. Tout cela vient du Créateur. Ça, faut le voir à un moment donné. C'est un peu, écoutez, comme quand on fait un jardin. Il y en a ici qui font régulièrement un jardin chaque année. Quand on fait un jardin, qu'est-ce qui se passe? Nous utilisons le sol que Dieu a donné. Nous utilisons la semence que Dieu a donnée. Il n'y a personne ici qui fait un jardin régulièrement, qui vient me voir à un moment donné, qui dit, « Monsieur Brochet, regardez, j'ai bâti, j'ai créé une nouvelle sorte de légumes ou une nouvelle sorte de fruits. Voici la semence. » Non, non. On a pris la semence que Dieu nous avait donnée. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait un jardin? C'est qu'on profite de la lumière que Dieu a donnée, parce que la photosynthèse permet aux plantes de se développer normalement. On a besoin de ce processus-là. On profite aussi de la chaleur pour que les plantes peuvent croître. Et on profite de la pluie. Et c'est pas nous qui la faisons tomber. Et quand on manque de pluie, les gens rendus à l'extrême essaient de se tourner vers en haut pour demander de la pluie. Parce qu'ils réalisent que ça ne vient pas d'eux, même s'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. C'est ça. Alors, voyez-vous, Dieu nous fournit les plantes, les fait germer, les fait se développer pour produire de la nourriture. Notre dépendance envers Dieu, elle est entière et en toute chose. Notre dépendance, elle est entière et en toute chose. Et dans tout ça, Dieu veut qu'on en arrive à prendre conscience de quelque chose d'important, prendre conscience de notre totale incapacité d'être autosuffisant, physiquement et spirituellement. Et qu'à travers ça, on apprenne vraiment à compter réellement sur lui, en faisant notre part, comme je vous dis. Si on ne fait pas notre part, il n'y aura pas de réponse. Mais si on fait notre part, Dieu va répondre de bonne façon. C'est pour ça qu'il nous place dans des situations où nous réalisons que nous dépendons totalement de lui. Et c'est vrai à tout égard. C'est pour cette raison que Dieu a amené les Israélites dans un endroit où l'eau n'était pas potable. Et il les a amenés dans un endroit où ils seraient entièrement dépendants de ces interventions miraculeuses pour qu'ils puissent avoir de l'eau et de la nourriture. Comme il va faire dans le lieu de sécurité pour ses serviteurs fidèles qu'il amènera bientôt à un endroit précis pour leur donner du pain et de l'eau. Exactement, ça viendra de lui. Et ceux qui seront là auront déjà développé d'avoir une confiance entière à Dieu, parce que les étapes qui vont précéder cet événement-là vont exiger qu'on fasse entièrement confiance à Dieu également. Par de telles circonstances, Dieu nous apprend cette leçon vitale de notre dépendance absolue envers lui. Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. Et quand on réalise qu'on est entièrement dépendant de Dieu pour tout, c'est que ça brise, ça défait une illusion humaine qu'on a, qu'on est capable de faire des choses. Bien sûr, sur le plan humain, on est capable de faire certaines choses. On a des talents, on a de l'énergie pour faire des choses. On en a de moins en moins quand on avance en âge ou qu'on est malade ou dans des circonstances de même. Là, on réalise qu'on dépend de Dieu. Mais de façon générale, on a l'illusion qu'on est capable de faire bien des choses. Mais on fait très peu de choses. En fait, Dieu nous laisse jouer dans notre petit carré de sable avec les éléments qu'il nous donne. Mais à travers tout ça, il veut nous apprendre que tout nous vient de lui. On perd cette illusion-là quand on réalise qu'on a besoin de Dieu pour toute chose. Et ça nous amène de plus en plus, là, à lui faire confiance. Là, à compter sur lui. Mais je reviens encore là-dessus, en faisant notre part, en s'appliquant à lui obéir. Sans ça, on s'amène aux vues. On se fait des illusions en pensant que Dieu nous aime. Ben oui, il nous aime, c'est sûr. Que Dieu nous aime et qu'il va continuer à nous bénir si on ne travaille pas à changer ce qu'on a vraiment à changer. Dans quel but Dieu permet-il de telles occasions nécessaires à notre croissance spirituelle vers le grand but? Si on regarde dans Deutéronome 8, verset 2, comme on a vu tantôt, Deutéronome 8, verset 2, la deuxième partie, je vous l'ai mentionné, pour nous humilier. Mais ça, c'est pas pour nous rabaisser ou nous écraser, là. Des fois, ce mot-là nous dérange dans sa définition. Mais Dieu veut pas nous écraser ou nous rabaisser. C'est pour nous faire voir notre petitesse, nous faire réaliser notre impuissance et donc notre besoin absolu de lui en toute chose. Alors, il permet des circonstances comme ça pour nous faire réaliser ça. Et de son côté, lui, pour voir les dispositions de notre cœur, comme on a vu dans le texte tantôt, pour voir si nous sommes vraiment disposés à faire les efforts qu'il faut honnêtement pour faire sa volonté. Dans ce cas-là, il va nous porter sur des ailes d'aigle, il va nous aider à passer des étapes, il va bénir les démarches qu'on va faire. Et par exemple, c'est pas un accident ou c'est pas par hasard que Moïse soit demeuré 40 jours sur le mont Sinaï quand il est allé chercher les tables de la loi. Durant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé en bas de la montagne? Les Israélites se sont fabriqués tout de suite un autre dieu, un veau d'or. Vous savez, vous connaissez cette histoire-là. Eux qui avaient dit à Dieu, « On va faire ce que tu nous demandes, on va te servir, on va faire ta volonté. » Si on regarde le contexte, il n'a fallu que six semaines, après tout ce que Dieu avait fait pour eux, pour qu'ils oublient les enseignements qu'ils avaient reçus, les directives de Dieu, qu'ils doutent de Moïse, qu'ils doutent de Dieu, et qu'en fait, ils les rejettent, et qu'ils retournent au fondement de ce qu'ils étaient, dans le fond. Et je vois plus loin, je me dis, si Moïse était resté au milieu d'eux, il n'aurait peut-être pas fait ça. Mais je dois ajouter, peut-être pas aussi vite, si Moïse n'était pas allé sur la montagne. Ce qui est arrivé, c'est qu'à sa descente de la montagne, Moïse, quand il a vu ce qui se passait en bas, il est devenu furieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fondre le veau d'or. Et il a fait, il a mis cette poussière-là sur l'eau, et il a fait avaler leur faux dieu aux Israélites, parce qu'il leur a fait boire cette eau-là, qui contenait la poussière d'or, si vous voulez. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Et on va lire les versets à partir du verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple en bas de la montagne, qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri, il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Toute une leçon. Et si vous regardez après ça, durant les 40 années suivantes dans le désert, Dieu leur a fourni de nombreuses occasions encore d'être testés, comme c'est notre cas au cours de la vie physique qu'il nous reste. Et vous vous rappelez, les plus anciens parmi nous ici, ceux qui faisaient partie de l'Église universelle de Dieu il y a plusieurs années. Nous, on est venus dans l'Église universelle de Dieu au début des années 1970. Il y en a certains ici que ça date de presque ça aussi. Alors, les plus anciens parmi nous, on sait et on se rappelle que ça a été la même chose pour l'Église universelle de Dieu, qui a été testée il y a plusieurs années, qui a été testée fortement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a permis qu'elle implose, que l'Église éclate, après que de faux enseignants se soient introduits dans l'Église et commencent à changer les doctrines de base de l'Église. Le sabbat n'avait plus d'importance autant, les fêtes n'avaient plus autant d'importance. Maintenant, c'était surtout la grâce, et non pas la loi. La loi était mise de côté. J'entrerai pas dans les détails, on peut voir beaucoup de sermons qui sont enregistrés là-dessus, ou des articles. Mais Dieu a permis que des faux enseignants entrent dans l'Église et créent cette situation-là où l'Église a implosé. Ça a été pour mettre l'Église au test, pour mettre ceux qui étaient là au test, et voir si les membres avaient réellement à cœur de tenir bon, de tenir aux principes qu'ils avaient appris, ou s'ils allaient suivre ces nouveaux enseignants. Et la plupart ont suivi, comme ça a fait pour les Israélites. Est-ce que notre attachement était fermement à Dieu, ou est-ce que ce n'était pas le cas? C'est intéressant et c'est révélateur. Ça a été difficile, ça a été une étape extrêmement éprouvante pour tout le monde. Mais beaucoup ont survécu. Certains ont été un bout de temps à l'extérieur de l'Église, mais sont revenus, ont retrouvé le sentier de la maison de Dieu et des vrais enseignements bibliques qui, eux, n'ont jamais changé. Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas ses lois, absolument pas, ni ses enseignements. Ça, c'est une base solide qui nous encourage. C'est sur lui qu'on doit compter et sur les choses qui sont solides comme ça. Dieu avait averti sa nation, d'ailleurs. Reportez-vous à Deutéronome, le chapitre 13. Dieu avait averti sa nation qu'il y aurait des faux prophètes et qu'il y aurait de l'idolâtrie. Et Dieu nous avertit encore qu'il y en aura d'autres encore, qu'il faut être sur nos gardes. Deutéronome 13, on va lire le verset 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, « Allons après d'autres dieux, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, faisons les choses autrement que ce qui est écrit dans la Bible. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. » pour voir ce qu'on a dans le cœur, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de tout votre âme. Voyez-vous, Dieu nous teste parce qu'il veut qu'on soit certain, et ça nous aide, nous, de le savoir. Parce qu'à ce moment-là, on est sur nos gardes et on fait davantage ce qu'on a à faire. C'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, vous vous attacherez à lui. J'aime cette expression-là. S'attacher à quelqu'un, s'attacher à Dieu. Donc, il n'y a pas de possibilité de séparation. Il faut y tenir dans ce sens-là. Il faut faire notre part pour que le lien reste solide avec Dieu. Allez dans 2 Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre, au chapitre 2. L'apôtre Pierre, ici, a été inspiré par Dieu, bien sûr, et il a rappelé à l'Église du Nouveau Testament, donc à nous aujourd'hui, le même avertissement en ce qui concerne ça. 2 Pierre 2, on va lire les versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. On a vu ça dans l'histoire des Israélites. Il y a eu de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il parle à l'Église ici. Il y aura de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alors, c'est une mise en garde. Et ça, faut en être conscient puis être sur nos gardes, exactement. Versets 9 et 10. Regardez ce que Dieu dit ici. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve ou aider ceux qui sont testés ou ceux qui rencontrent ce genre de test ou de danger, de faux prophètes. Il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, c'est-à-dire ses appelés qui sont fidèles, qui restent attachés à lui, qui étudient chaque jour, qui le prient, qui lui demandent son aide, qui travaillent à changer avec son aide. Il dit, Dieu sait délivrer de l'épreuve, sait les aider à passer à travers les tests, les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Oui, Dieu délivre de ces tests-là ceux qui sont conscients qu'on peut être menacé, qu'on l'est, qu'on le sera, et qui demande à Dieu de rester ferme et qui lui demande de nous aider à faire sa volonté, justement pour développer cette fermeté-là. C'est répété, ça, cette promesse-là, c'est une promesse que Dieu fait, dans le fond, qui va nous aider à passer à travers si on reste attaché à lui, fermement. Jude, le livre de Jude, allez un peu plus loin, le dernier livre avant l'Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre, c'est simplement un court livre au complet. Jude 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu. Et notez bien l'encouragement ici. Ceux qui sont appelés sont aimés par Dieu. Il est en train de travailler avec eux et il veut leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils réussissent, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et oui, il y a plus que ça. Ils sont gardés, protégés en Jésus-Christ pour être capables d'arriver au but. Parce que sans protection, sans la protection de Dieu, c'est impossible. Absolument pas. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et regardez la mise en garde après ça. Versets 3 à 5. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, ne vous détournez pas de cette foi-là, de ce que vous avez appris, de ce que la Bible nous montre clairement. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Donc, qui mettent en doute les commandements de Dieu, mettent en doute le sabbat, mettent en doute les façons de faire, mettent en doute les fêtes, mettent en doute le fait qu'on doit changer. On va dire aux gens, venez comme vous êtes. Voyez-vous? Ça, c'est des faux prophètes qui diluent la vérité. Il dit, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut le renier? On peut le renier en parole, dire je ne crois pas en Jésus, mais les faux prophètes ne font pas ça. Ils disent croire en Jésus. Ils parlent de lui, mais ils n'annoncent pas ce que le Christ annonce. Le Christ a dit à un moment donné, hein, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est ça. Alors, ces faux prophètes-là prétendent parler au nom du Christ, prétendent représenter le Christ, et ils parlent gentiment à propos de la divinité, même positivement, mais ils le renient par leurs actions, parce que leurs actions ou leur façon de vivre ne sont pas conformes aux lois de Dieu. Ça nous aide de le voir de cette façon-là. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Alors, c'est un rappel, comme on a parlé tantôt, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de troisième chemin. Il n'y a pas de troisième chemin. Absolument pas. En parlant de l'époque où nous vivons, qui est celle juste avant le retour de Christ, le Christ nous montre ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer. Parce que ces choses-là vont se répéter, vont arriver, pour que nous soyons encouragés et pour que nous sachions comment réagir, pour que nous restions proches de lui pour avoir sa force. Allez dans Marc, chapitre 13, s'il vous plaît. Marc, chapitre 13. L'Évangile de Marc, donc, au chapitre 13. Commençons à lire au verset 18. Et on voit dans ce passage-là que ça parle de la grande détresse qui approche, donc du temps de la fin, là où nous sommes. Verset 18 de Marc 13. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Il parle de la fuite ici. Et c'est une chose qu'on demande à Dieu dans nos prières occasionnellement, qu'il bénisse pour que lorsqu'on sera amené à fuir pour aller au lieu de sécurité, que ce ne soit pas en hiver ni un jour de sabbat. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire personne n'en sortirait vivant. Mais il les a abrégés. À cause de qui? À cause de ses élus, ceux qu'il aime, qu'il a appelés et qu'il veut amener à terme. À cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Et on sait qu'il y aura de grands miracles qui vont se faire à la fin, s'il était possible. Il dit au verset 23, « Soyez sur vos gardes. » Et c'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui aussi. « Soyez sur vos gardes. » Préparation aux événements qui viennent. C'est le thème de mon message. « Soyez sur vos gardes. » Et regardez ce que le Christ dit après. « Je vous ai tout annoncé d'avance. » « Je vous ai tout annoncé d'avance. » Et ça, il faut le réaliser et s'appuyer là-dessus. Il nous a dit ce qui allait venir et ce qui vient maintenant. Et il nous dit exactement ce qu'on a besoin de savoir pour se préparer et pour passer à travers avec succès. Verset, allez à Matthieu 24 maintenant. Matthieu 24, où le Christ décrit ce qui doit arriver juste avant son retour. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement ou de ton retour sur la terre et de la fin du monde? » c'est-à-dire la planète ne cessera pas d'exister, mais la fin de la société présente. Alors, ils ont demandé, donne-nous les signes. Qu'est-ce qu'on doit voir pour savoir que ça va être tout proche? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, voyez-vous, la première mise en garde du Christ, ça a été contre les séducteurs, contre les faux prophètes, contre les faussetés qui sont répandues partout, en abondance, par toutes sortes de religions qui pullulent sur Internet, dans les publications et tout ça. Ceux qui vont fouiller là-dedans, là, c'est pas très, très raisonnable et c'est absolument dangereux. Quand vous avez trouvé la vérité, prouvez-la comme il faut. Prenez le temps de la prouver comme il faut. Et ensuite, restez ancré sur la vérité. C'est comme quelqu'un qui se marie, ça. Après qu'on a trouvé l'épouse qu'on voulait avoir, qu'on marie cette dame-là, qu'est-ce qu'on a à faire d'aller voir d'autres dames? Ça n'aidera pas notre couple, au contraire. Pas du tout. C'est exactement la même chose. Une fois qu'on a trouvé la vérité, il ne peut pas y avoir 10 vérités. Une fois qu'on l'a trouvée, il faut la prouver, la reprouver, l'approfondir, la revérifier et en être convaincu, puis maintenir le cap jusqu'au bout. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Oui, ils vont dire que le Christ est le Christ et qu'il a fait beaucoup de choses et que c'est notre sauveur et tout ça, mais en même temps, ils vont diluer la loi. Ils séduiront beaucoup de gens. Allez au verset 8. Verset 8, il est dit ceci. Tout cela, ce qu'il vient de décrire, là, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les épidémies qu'on voit se dessiner maintenant, pas seulement ailleurs, mais même autour de nous, toutes ces choses-là sera le commencement des douleurs. On est à ce stade-là maintenant. C'est le commencement des douleurs. Et je vous rappelle qu'au verset 6, juste un peu plus haut, il disait, « Gardez-vous d'être troublés. Ne vous laissez pas être troublés par les grandes difficultés dans le monde, par les guerres, les famines qu'on voit autour. » Ça fait mal de voir ça, c'est vrai. Mais il dit, « Ne restez pas concentrés là-dessus. Concentrez-vous sur les belles choses que Dieu vous montre, sur les belles choses que Dieu en réserve pour vous, les choses que vous avez à changer pour être proche de Dieu. » Concentrez-vous là-dessus. Oui, suivez l'actualité de façon générale, mais ne pas s'empiffrer de choses négatives à journée, de regarder des bulletins de nouvelles sans fin et d'en être atteint, d'en être dérangé, si vous voulez. Gardez-vous d'être troublé. Ça veut dire, faites attention pour ne pas être déstabilisé. Gardez le chemin. Puis gardez à votre esprit puis dans les occupations de votre vie, les choses qui vont avec votre salut, avec ce que Dieu nous a donné. Pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas être ralenti. Restez centré sur le but. C'est intéressant parce que M. Weston a écrit justement ça dans le World Ahead aujourd'hui, de rester centré sur le but, de ne pas nous laisser écraser par les choses mauvaises qu'on voit dans le monde, mais d'avoir en tête le beau but que Dieu a pour nous, de travailler à se préparer à ça. Pas se laisser être troublé ou déstabilisé. Pas se laisser être ralenti. Parce que on peut se laisser être ralenti ou déstabilisé en étant trop centré sur les problèmes du monde. Faut pas se centrer trop sur les problèmes du monde. Faut le voir. Faut voir les problèmes du monde. Écoutez, c'est écrit, vous irez voir dans Luc 21, verset 36, le Christ dit, « Veillez et priez en tout temps pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent. » Alors, c'est vrai qu'il faut veiller sur les choses qui se passent, mais il faut avoir un équilibre là-dedans. L'élément principal de veiller ici, c'est veiller sur vous-même pour être prêt aux choses qui viennent. Veillez sur vous-même, soyez prêt aux choses qui s'en viennent. Ne restez pas centré sur les problèmes du monde. Parlez-en à Dieu, demandez-lui que son règne vienne, mais ensuite, préparez-vous, développez son caractère, travaillez à vaincre. Alors, il ne faut pas être centré sur les problèmes du monde comme ça, et il faut faire attention pour ne pas être non plus être centré dans les problèmes de gens autour de nous dans l'Église. Parce que parfois, c'est un piège pour d'autres. C'est un piège qui nous vient de d'autres personnes. Parce que certains membres sont parfois et seront victimes de tromperies, seront victimes de séduction, comme je vous dis, des gens qui vont fouiller ailleurs, puis qu'à un moment donné commencent à trouver une vérité qui n'est pas la vérité. Alors, il y a des gens qui arrivent avec ça dans l'Église, parfois, c'est dommage. Et quand le ministre en a connaissance, parce que d'autres nous en parlent, on aide la personne pour la faire réaliser qu'elle n'est pas sur la voie du salut, qu'elle est en train de s'éloigner et qu'elle ne doit pas amener ces choses-là dans l'Église non plus. Alors, voyez-vous, il faut faire attention à ces choses-là. Il y a certains membres aussi qui ont fait dans le passé et qui vont, ça va arriver encore, qui vont faire des compromis, eux, avec la loi, qui vont abandonner certaines choses et puis qui vont devenir négligents, qui vont perdre, pour ainsi dire, leur premier amour, le zèle qu'ils avaient. Trop centrés en même temps peut-être sur les soucis de la vie et laisser tomber le combat pour vaincre nos faiblesses. Laisser tomber notre premier amour. Alors, c'est des choses qu'il faut savoir, puis il faut agir en conséquence pour se protéger. Pourquoi ça sera comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il y a des faux prophètes, il y a des gens dans l'Église même qui vont diminuer et qui vont donner dans ce sens-là un mauvais exemple aux autres. Ils vont même amener d'autres doctrines étrangères. Pourquoi? Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est quoi l'iniquité qui va s'accroître? C'est quand on regarde premièrement autour dans le monde, comment la méchanceté augmente, se multiplie de façon effarante, tellement décourageante. On voit que le monde s'en va droit sur un mur de briques. Ça devient très, très clair. L'iniquité qui s'accroît tout autour, c'est-à-dire le mal, la méchanceté, sous toutes ses formes, la violence, la fraude, le crime. Et si on met trop nos yeux là-dessus seulement, il faut le voir, mais si on met trop nos yeux là-dessus, ce que ça fait, c'est que ça nous affecte et ça nous déstabilise. Il faut le voir, en parler à Dieu, mais nous, on a d'autres choses à parler à Dieu pour que les choses changent. Exactement. Alors, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, ça s'adresse à l'Église aussi. L'amour du plus grand nombre peut se refroidir. Et ça, il faut en être conscient, puis agir en conséquence. Parce que vous avez une chose, pour passer là du chaud au froid, okay? L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pour passer du chaud au froid, il faut passer par une étape intermédiaire qu'on appelle le tiède. Pour passer du chaud au froid, il faut passer tranquillement, sans s'en rendre compte, par une étape intermédiaire qui s'appelle être tiède. Et ça, ça décrit exactement l'Église de Laodicée, c'est-à-dire l'Église du temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Il y aura un nombre de personnes qui sera dans cette disposition-là. Vous pourrez aller voir, on n'ira pas, mais vous irez voir Apocalypse 3, versets 14 à 22. Des gens qui pensent tout avoir, qui pensent ne pas avoir besoin de rien. Mais je vais y aller. Apocalypse 3, verset 22. Ça fait partie de l'élément que je veux vous montrer ici, qui est important. Commençons au verset 14, Apocalypse 3. Écrit à l'Église de Laodicée. Et ça, c'est la mentalité générale de l'époque où on est. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire le Christ, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, ceux qui sont laodicéens. Et écoutez, on est à la même époque tout le monde. Ceux qui sont philadelphiens, c'est-à-dire qui ont à cœur de changer, de faire la volonté de Dieu, et ceux qui se laissent aller. On vit la même époque, l'ère de Laodicée. Il y a une atmosphère qui est propice à ça. Il y a une mentalité à notre époque. Mais il y a deux sortes de gens dans l'Église. Des gens qui ont à cœur de servir Dieu, de tenir bon malgré les circonstances difficiles et de lui demander son aide. Et les autres qui font des compromis, qui se laissent aller, qui abandonnent des choses ou qui ne changent pas vraiment. Alors il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voyez-vous? Entre les deux, tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est fort, là. C'est le Christ qui dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Mais oui, j'ai besoin de rien. Je m'arrange très bien. Puis je connais la vérité. Ça fait des années que je suis dans l'Église. Puis porte. Bien des fois que j'entends le même sermon, c'est pas toujours aussi intéressant parce que les choses sont répétées. Mais comme on a vu dans la sermonnette, les choses répétées ont une importance capitale pour qu'on reste ancré sur la vérité et qu'on y tienne vraiment. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. J'ai pas besoin qu'on me dise de changer. Je peux continuer comme ça. Ma vie est bonne. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Nu parce que tu n'as pas les œuvres de Dieu. Tu ne mets pas en pratique les lois de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Alors ici, Dieu, le Christ dit, je vous vomirai de ma bouche ceux qui sont dans cet état-là, à son retour. C'est-à-dire qu'il va les envoyer dans la grande détresse. Il va permettre qu'ils aillent dans la grande détresse pour leur donner une dernière possibilité de prouver à Dieu leur engagement, au prix de leur vie. Et de certains martyrs. C'est exactement ça. Alors, je reviens à ça pour aller du chaud, quand on découvre la vérité, qu'on est tellement enthousiaste, qu'on va au baptême et tout ça, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Pour aller du chaud au froid, on passe automatiquement par la tiédeur. Ce que les autres membres de l'Église font, ou ce que les autres membres de l'Église feront, ne doit pas nous servir d'excuse pour ne pas rester fidèle. Ça ne doit pas nous servir d'excuse pour ne pas rester fidèle. La chose importante, c'est votre relation à vous avec Dieu, pas la relation du voisin. C'est sûr que ça nous préoccupe, on prie pour ceux qui on voit qui ont des besoins. Mais l'essentiel pour vous et pour moi, c'est votre relation et ma relation avec le Tout-Puissant. De lui rester fidèle. Tenir fermement à la promesse qu'on a faite au baptême. Quand on a dit, comme les Israélites, « Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais te rester fidèle. » Et il faut que ce soit là, dans les faits. Et pour que ça marche, il y a la grande réalité qu'il faut dire à Dieu, « Aide-moi. Seul, je ne peux pas. Aide-moi à vaincre telle faiblesse. Aide-moi à voir ce que je dois voir. » Aide-moi dans tout ce que j'ai besoin pour que je t'appartienne de tout cœur. Je t'ai promis ça à mon baptême. Et c'est vrai, lorsqu'on prépare des gens pour le baptême, on leur montre la gravité de l'engagement, et c'est pour ça que les gens doivent être prêts, qu'on doit les aider à comprendre vraiment ce que c'est l'engagement du baptême, et ils passent par les eaux du baptême quand ils sont prêts. Mais ils sont conscients de l'engagement. C'est pas un jeu. Et l'engagement a une lourdeur sur le reste de notre vie et a une conséquence, non seulement sur le reste de notre vie physique, mais a une conséquence pour l'éternité. C'est pas peu de choses. Alors voyez-vous, pour chacun de nous, là, tout se joue dans notre relation personnelle, individuelle avec Dieu. Tout se joue là, dans le rôle qu'on a joué là-dedans. Comment? En restant proche de notre grand Dieu, par l'étude biblique régulière tous les jours, par la prière tous les jours, se confier à lui, lui expliquer en détail ce qu'on vit, ce qu'on ressent, nos peurs, nos besoins, reconnaissance envers tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, lui parler en détail. Alors ça, c'est une façon de rester proche de lui, étudier sa parole, lui parler dans notre prière de ce qu'on a vu dans la Bible le matin, qu'on a compris ou pas compris, ou ainsi de suite. C'est ça, marcher avec Dieu. Alors, comment rester proche? C'est d'étudier, de prier, de jeûner régulièrement et de voir à ce que nos actions soient conformes à ses lois. Et dans tout ça, le Christ nous encourage beaucoup. Il nous aime, puis il veut nous amener à terme. On l'a vu tantôt dans certains passages. Il nous encourage beaucoup en nous incitant à faire partie, avec son aide, de ceux qui auront le grand bonheur d'entrer dans l'éternité, d'entrer dans la vie éternelle, dans la famille divine. Ça va se passer bientôt, d'ici quelques brèves années. Matthieu 24. Retournons à Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24. Et regardez la catégorie dans laquelle le Christ veut nous amener, veut nous garder. On a vu tantôt que le Christ nous garde, hein? Mais il va nous garder si on veut être gardé, si on fait ce qu'il faut pour être proche de lui dans ce sens-là. Et regardez la catégorie dans laquelle le Christ veut que nous soyons, dans laquelle il veut nous amener. Matthieu 24, verset 13. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire qu'il recevra la vie éternelle. Celui qui travaillera malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, malgré les doutes, malgré toutes ces choses-là, celui qui va tenir, celui qui va combattre jusqu'au bout, il dit, celui qui va persévérer sera sauvé, recevra la vie éternelle. Vous savez, je vais vous faire une grosse déclaration qui ne vous surprendra pas après ce que je viens de vous expliquer dans le sermon. Aux faibles êtres humains que nous sommes, ce qu'on vient de lire ici, c'est absolument impossible. C'est impossible que nous soyons capables de persévérer jusqu'à la fin. C'est impossible aux faibles êtres humains que nous sommes. Mais, reportez-vous à Marc chapitre 10, un encouragement extraordinaire que le Christ nous donne. L'évangile de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, on va lire les versets 26 et 27. Les disciples, Marc 10, versets 26 et 27, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Quel être humain peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, c'est impossible aux hommes. Je confirme ce que je viens d'affirmer. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. C'est impossible aux hommes, pour être sauvés, de persévérer jusqu'à la fin. Tout ça se tient. Le Christ lui-même dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. De prendre le tas de poussière coupable que nous sommes, de le nettoyer de ses fautes passées, et de lui mettre son Saint-Esprit à l'intérieur de la personne et de le préparer pour aller à la vie éternelle et de lui donner l'aide nécessaire en cours de route pour changer ce qu'il a à changer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors voyez-vous, tout se joue dans le fait de faire notre part au mieux en restant proche de Dieu avec son aide et en apprenant à compter entièrement sur lui.